Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonsoir tout le monde, j'essaie de comprendre quelque chose à la régie, mon metteur en régie n'est pas là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Pop en Stock, c'est l'épisode 77 au sujet de des parcs Disney. En fait, ça me tente de vous accueillir en disant bienvenue dans le monde merveilleux de Disney. Mais on va parler spécifiquement des parcs Disney. Mes collègues me font des signes. Vous pouvez, je pense qu'il y a des boutons, vous pouvez devant vous.
Oh non, est-ce que tu nous entends bien?
Moi, je t'entends très bien.
Ah, merveilleux, nous on est dans le maximum et on t'entend pas très bien, mais on t'entend un peu.
Ok, je sais pas quoi répondre à ça. Oui, pourtant, tous les boutons sont ouverts. Bon, alors, la voix qu'on a entendue, c'est la voix d'Elisabeth Simpson, qui est collaboratrice à l'émission Dans les airs, ici, à Choc FM, le lundi de 12h30 à 13h30.
Exactement.
Et aussi à l'émission Air d'ici, à, que dis-je, les Nyctalopes.
Les Nyctalopes.
À CSM, qui sont le vendredi soir.
Vendredi soir de 19h à 21h.
Elisabeth est ici pour nous parler des parcs Disney. On a aussi Megan Bédard, qui est étudiante en maîtrise en études littéraires. Megan est... je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu. Megan est ici pour nous parler plus spécifiquement là, de la transmédialité des parcs Disney, tout ça. Chacune de nous trois est allée déjà dans le parc Disney. Moi, j'étais très jeune, j'avais 4 et 5 ans. On va faire le tour de l'horizon. Premièrement, un petit historique. Disney, la compagnie, est considérée... naît le 16 octobre 1923. C'est en fait un contrat de production entre Walt Disney et une autre compagnie de production qui est considérée comme l'acte de fondation de la compagnie. Le premier parc, pour sa part, est fondé le 17 juillet 1955. C'est Disneyland, qui est situé à Anaheim, en Californie. Disney, à cette époque-là, est déjà une grosse compagnie. Il y a des petits cartoons, il y a des comic strips, il y a des films, à la fois des films d'animation et des films avec des acteurs. Un studio aussi complètement réservé à la production de films. Un studio de musique. Ils ont même des actions en bourse en 1955, donc c'est déjà une grosse compagnie. Le prochain parc est... inauguré le 1er octobre 1971, il s'agit du Walt Disney World, qui est peut-être vraiment le porte-étendard des parcs d'attractions Disney, le plus connu, le plus gros. C'est situé en Orlando, en Floride. Il y a 4 sous-parcs. Le Magic Kingdom, qui est peut-être, c'est là où il y a le château, tout ça, on connaît bien. Epcot, qui est le futur du passé, là. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Les studios Hollywood, qui est anciennement les studios Universal, et le Animal Kingdom, qui est une espèce de zoo, là, de grand zoo. Il y a 2 parcs aquatiques reliés aussi à Walt Disney World et à peu près 1 milliard d'hôtels. Non, il y en a 21, en fait, j'en ai compté sur la page Wikipédia, mais c'est quand même beaucoup, là, 21 hôtels. Et il y a des hôtels vraiment pour de toute la gamme, là.
Donc des hôtels affiliés à Disney, pas des hôtels comme des Hilton ou whatever qui sont autour. Là.
Oui, c'est ça, oui. Quand même. Donc, des hôtels, il y en a un spécialisé dans le golf, spécialisé dans le yacht, parce qu'il y a comme des lacs, là. Il y a des hôtels familiaux, il y a des hôtels pour célibataires, et j'imagine.
Il y a des hôtels aussi directement sur le parc. Par exemple, Magic Kingdom a son hôtel.
Ah,
on
oui?
peut dormir là. Puis...
pas besoin de faire la file. On entre directement. Le premier parc d'attractions Disney hors Amérique est le Tokyo Disney Resort, qui ouvre le 15 avril 1983. C'est quand même intéressant qu'il ait fait ça au Japon, parce qu'on connaît les relations tendues quand même entre États-Unis et Japon depuis au moins Pearl Harbor. Là, donc, la première patte à l'extérieur, c'est là. Bon, Euro Disney, qui est maintenant Disneyland Paris, ouvre le 12 avril 1992. Et le dernier en liste, c'est le Hong Kong Disneyland, qui ouvre le 12 septembre 2005. Il est à noter que, en fait, en ce moment, on construit le Shanghai Disneyland, dont l'ouverture est prévue au printemps 2016. Donc, les parcs d'attractions Disney, on les aime d'amour, on les déteste, on aime les aimer, on aime les détester, on déteste les aimer, avec toute la combinaison possible. Elisabeth est allée à deux reprises, enfant et adolescente.
Exactement. Mais je suis allée à Disney World, donc la première fois à 8 ans et la deuxième fois à 17 ans. Et je peux pas penser sous silence, en fait, que on sait, lorsqu'on vit des événements tragiques comme le 11 septembre 2001, on a l'habitude de se rappeler exactement ce qu'on faisait lorsqu'on a appris le dit événement.
Oui, en effet.
Puis moi, j'étais à l'école, puis mon grand-père est venu me chercher. Puis il m'a raconté tout ce qui s'est passé, il m'a parlé d'un ton, là, tu sais, l'heure est grave et tout ça. Puis pendant qu'il me racontait ce qui se passait, il m'a aussi dit, ben là, ça va être rendu compliqué de prendre l'avion aux États-Unis. Okay. C'est alors que moi, je me suis écrié, là, ben quoi, je pourrais pas aller à Disney World le mois prochain? Puis je capotais vraiment beaucoup, puis mon grand-père m'a regardé hyper choqué, se disant que j'étais vraiment une enfant égocentrique et sans empathie pour la géopolitique internationale, mais tu sais, c'était Disney World, puis j'avais 8 ans, hein, fait que qu'est-ce que tu veux, j'ai réagi comme n'importe quel enfant de 8 ans probablement allait réagir.
Oui, en toute honnêteté.
Ben voilà, mais tu sais, parce que c'est tellement Disney World, je sais pas si pour vous ça a été la même chose, mais je sais que quand moi j'ai appris que j'allais à Disney World, cet été-là, j'étais tellement heureuse. J'étais pas hystérique, mais j'étais tellement reconnaissante. C'est ma mère qui m'avait amenée, puis là j'étais comme oh, maman, je sais pas comment te remercier, là là là, c'est la grosse affaire. Et il y a quelque chose de justement qui est beau avec Disney pour les enfants, puis ça me fait penser en fait à une amie, la fille d'une de mes amies qui malheureusement est née avec une déformation au niveau du cœur. Mm-hmm. Puis à l'âge de 3-4 ans, elle a acquis le droit de faire partie du programme Fondation Rêve d'enfant.
Okay.
Puis ben comme tous les rêves d'enfants à peu près, ça dit genre ben je vais aller à Disney World, ben est allée à Disney World, tu sais.
Ça doit être un rêve assez populaire en effet.
Effectivement. Et pour vrai, je peux vous dire que les parcs Disney portent particulièrement une attention à tout ce qui a trait au mot magique là, en général. Mais quand t'es un enfant là, puis que t'es malheureusement super malade là, puis que tu reçois le traitement Disney. Ça n'a rien à voir, OK? Ça n'a rien à voir avec ce que nous, en tant qu'adultes, en tant que jeunes enfants, on a pu vivre. Écoute, elle passait la journée... Le règlement d'ordre que ses parents se faisaient dire par tous les employés, c'est « Vous avez jamais le droit de lui dire non. Tu peux manger de la crème glacée quand tu veux. » Je pense qu'elle en a mangé à s'en faire éclater le bide. Elle a aussi pu rencontrer sa princesse préférée qui a appris des mots de français pour pouvoir parler avec elle.
Ah ouais.
Le gros traitement sale qui a dû... Voilà. Mm. Puis, heureusement pour la fille de mon amie, elle est encore vivante, elle a survécu à ses opérations, donc elle s'en rappelle encore de toutes ces superbes anecdotes et de tous ces super moments qu'elle a passés à Disney World. Puis pour revenir au terme magique, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on veut donner au parc, puis c'est pour ça qu'on veut s'imprégner de cet univers magique-là quand on va là, puis qu'il faut que toute l'expérience autour de Disney soit magique, mais elle est partout, là. Elle est quand tu te promènes, elle est quand tu regardes la décoration, elle est dans les restaurants, elle est dans les spectacles, elle est même dans les files d'attente. Je sais pas si vous vous rappelez des files d'attente de Disney, mais c'est comparativement, mettons, à, je vais dire quelque chose de plus proche de nous, mais mettons la ronde, où est-ce qu'on va attendre un peu comme des piquets très très longtemps, à Disney, on a même accès à des jeux vidéo qu'on peut jouer pendant les files d'attente, des petits spectacles.
Ce n'était pas le cas quand j'avais 4 ans et 5 ans. Quand je suis allée au milieu des années 80, il n'y avait pas ça. On attendait comme des piquettes.
Ah, ben voilà. Mais là, ils se sont améliorés. Entre autres, par exemple, avec Harry Potter, la file d'attente pour se rendre au manège dans Hogwarts, t'as accès... Oui, OK, c'est très long à attendre là. C'est un manège qui est hyper populaire, mais qui... tu te promenais quand même dans un beau décor avec des tableaux qui te parlent, avec des sons étranges, avec accès à du matériel, justement, à de la belle décoration qui faisait comme ce que tu t'imprégnais de l'univers d'Harry Potter avant de te rendre.
D'accord,
donc,
oui.
C'est beaucoup plus intéressant que d'être dans une espèce de petite clôture puis sentir comme un mouton qui avance vers l'abattoir ou je ne sais quoi.
Juste mentionner une chose, parce que moi, je suis allée cette année, au mois de mai, puis... Oui, ils ont essayé de rendre toutes les files d'attente magiques, mais je trouve qu'ils ont un peu échoué avec le nouveau manège de Blanche-Neige et les Sept Nains, où la file d'attente est vraiment insupportable. Donc, j'ai attendu pendant 2 heures avec la même chanson. Ben, en fait, la trame sonore de Blanche-Neige et les Sept Nains chantée avec une petite voix aiguë, puis il y a des jeux interactifs qui font plein de bruit, puis c'est vraiment insupportable.
Oh, je trouve qu'ils ont échoué dans ça. Et vous êtes restés dans la file? T'es resté dans la file?
Oui, il fallait l'essayer. Là.
Okay. Est-ce que le manège valait la peine?
Non.
OK. C'est comme, il n'y a rien de positif.
Allez pas à celle-là.
Ben voilà, mais sinon, en général, le parc va quand même essayer de t'émerveiller, puis oui. T'es un enfant ou t'es un adulte à tendance Peter Pan ou à tempérament nostalgique, d'habitude, ça va marcher,
oui,
justement.
Oui, oui, habituellement, ça marche. Là.
Voilà. Mais comme l'a dit, donc, je vais citer Roy Disney, qui est le frère de Walt.
Mm-hmm. C'est lui qui a pris d'ailleurs les commandes de la compagnie après que Walt Disney a été cryogéné.
Oui, effectivement. Mais voilà, je vais le citer à propos de Magic Kingdom. Walt Disney World est un hommage à la philosophie et à la vie de Walter Elias Disney et au talent et au dévouement et à sa loyauté envers toute l'organisation Disney qui ont permis de réaliser le rêve de Walt Disney. Puis, puisque Walt Disney World apporte joie, inspiration et connaissances nouvelles à tous ceux qui viennent dans ce lieu enchanté, un royaume magique où les jeunes de cœur et de tout âge peuvent rire, jouer et apprendre ensemble. Probablement que quand il parlait d'apprendre, il devait parler d'Epcot parce que c'est pas mal là que t'es censé apprendre des choses. Mm-hmm. C'est justement pour ça que d'habitude les enfants aiment pas aller à Epcot. Mais bon.
Je me souviens que c'est ma mère là, qui insistait pour aller à Epcot.
Puis, elle était satisfaite de voir son petit Château Frontenac miniature. Puis,
je pense que oui, c'est vrai, le Château Frontenac miniature, je me souviens de ça.
Mais il y a un gag dans Les Simpsons aussi à un moment donné où Homer arrive et il dit aux enfants: on va à Disney. Ils sont ouais, à Epcot.
Mais voilà, mettez la magie, ce n'est qu'une illusion, puis c'est pour ça qu'on peut continuer à critiquer Disney, puis on va probablement le faire en général durant l'émission, mais c'est ça, on peut dire justement que ben, tout ce qu'on peut en fait critiquer à Disney, on peut le critiquer aussi à ses parcs. Ça reste un monde où on valorise les stéréotypes masculins-féminins, un univers hétéronormé, où l'on promouvoit le consumérisme à coups de bébelles fabriquées outre-mer et tout ça. Parlant de prix, une famille nucléaire moyenne, disons deux parents et deux enfants de moins de 10 ans et qui souhaite passer, dis-je, une semaine dans les parcs de Disney World du lundi au vendredi, mettons, ça va leur coûter 1 300 $ US les entrées au parc.
Juste les entrées, donc pas l'hôtel, pas le restaurant.
Exactement, pas de transport, pas d'hébergement, pas le toutou de Frozen, pas la photo dans Tour de la Terreur. T'sais, tout ça, ça peut monter vraiment vite quand tu accumules tout ça. Puis sinon, à part des clients, qui d'autres qui vit la vie de Disney?
Les mascottes?
Ben, les employés.
Oui, c'est ça, oui. Donc, ceux qui sont en dessous des mascottes.
Voilà, et qui font tout le reste.
Parce que oui, il y a des humains en dessous, en passant.
Oui, oui, exactement. Et si Walmart appelle ses employés les associés, Disney appelle ses employés les cast members.
Ah, ils font partie d'un spectacle. Okay.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment de l'ouvrage d'être un cast member. Puis c'est la formation, c'est une formation à temps plein, puis qui vont tendre à t'apprendre le Disney way of life. Puis l'article que j'ai lu... Oh, je ne m'entends plus dans mon casque d'écoute. Toi, tu m'entends bien,
oui,
Hélène?
Moi, je t'entends bien, oui.
Merveilleux. Ben, c'est pas grave si je m'entends pas, je vais continuer à parler. L'article que j'ai lu, donc, n'allait pas très en profondeur, mais il disait, entre autres, qu'il y avait un code vestimentaire super rigide, que les ombres devaient être coupées comme ceci, que les cheveux devaient être tenus comme cela. Leur philosophie derrière cette demande, c'est que tout le monde doit être abordable. Faut que tout le monde ait l'air un peu standard pour pas qu'on ait peur de les déranger. Puis, comme des mannequins, en fait, c'est pas eux qu'on vient voir, c'est le spectacle. Fait que c'est pas grave si on sait pas vraiment de quoi qu'ils ont de l'air. J'ai une couple d'anecdotes, par exemple, justement, parce que vu qu'on doit justement ne pas les... on doit pas les considérer... d'abord, eux, ils sont là, font partie du spectacle, ils doivent respecter tout le monde, c'est-à-dire on les entraîne à ne pas répondre de manière sarcastique lorsque les gens leur demandent « La parade de 3 heures est à quelle heure?
» Oui, OK, oui. Faut l'apprendre.
Voilà, puis lorsqu'on leur demande où est-ce qu'on peut trouver Mickey Mouse, lorsque les parents demandent ça, ils veulent pas, bien sûr, dire « ben il y en a un là, pour pas sous-entendre qu'il y en a à plusieurs endroits en même temps. Et aussi, il raconte que lorsque une petite fille a échappé sa petite poupée Belle, j'imagine qu'elle a échappé d'un manège parce qu'il est tombé derrière des barrières de construction. Non seulement ils sont allés rechercher la poupée, mais en plus ils l'ont fait passer un petit makeover là pour réparer, changer la robe et se faire quelques coutures pour être sûr que la poupée soit comme neuve pour maintenir la magie.
J'ai déjà entendu parler qu'il y a une famille qui a été témoin d'une altercation entre employés à Disney World et qui ont poursuivi Disney World à ce titre-là parce que c'était ils ont perdu le privilège, la promesse de Disney World, the happiest place on earth, mais c'était pas à ce moment-là the happiest place on earth parce qu'il y avait une altercation, une chicane.
Ben voilà, puis ils ont gagné, j'imagine.
Ça, je n'ai aucune idée.
Probablement.
Les Américains, ils se poursuivent un peu pour rien, mais des fois. Voilà. Mais c'est quand même révélateur de... Faut que ce soit tout le temps heureux, faut que ce soit tout le temps propre et commode et facile.
Mais c'est ça. Mais pour terminer, j'aimerais juste dire, dans le fond, c'est ça que les employés, dans le fond, les ressources humaines vont souvent dire que les employés de Disney doivent être traités comme un client. Fait que c'est pour ça qu'ils ont qu'ils sont quand même bien traités dans le sens qu'ils ont des accès gratuits au parc pour eux, leur famille. Ils ont des rabais à bouffe sur le cinéma. Ils ont accès à plein d'activités sur le site de Disney, entre autres du golf et des choses comme ça. C'est vraiment, on essaie vraiment de leur faire vivre, en fait, l'expérience Disney 7 jours sur 7. C'est-à-dire, quand tu travailles pas, au pire, tu peux continuer à profiter de notre mode de vie ou de notre espèce d'encadrement magique, là. Donc, c'est vraiment presque une vocation d'aller travailler pour Disney. Une vocation qui est pas très lucrative, par exemple. Le 1er août 2014, il a été voté, dans le fond, que le union de Disney a voté que le salaire minimum allait passer à 10 $, mais le salaire minimum de Disney allait passer à 10 $ à partir de juillet 2016.
Ouais,
et que, dans le fond, il faut spécifier que le salaire décent pour vivre en Floride qui a été calculé, donc c'est 10 $ et 57. Donc, c'est même pas encore, c'est en haut du salaire minimum, mais c'est pas c'est encore en bas pour vivre de manière décente dans la Floride. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais ils disent que, ils acceptent d'être payés comme ça parce qu'ils veulent vivre le trip Disney. Donc, trip Disney. Des fois, c'est de danser à 40 degrés Celsius dans un sou de lycra. Mais bon, t'es dans un trip Disney.
Ou en dessous d'une mascotte à l'effet de serre qui doit être assez imposant. On va écouter la chanson It's a Small World. qui est tiré du manège, je pense, manège It's a Small World,
voilà.
Qui est un des manèges les plus importants de Magic Kingdom. On va l'écouter, puis on va revenir après dessus. Oui, j'imagine que... En tout cas, c'est une chanson, mon Dieu, qui hante longtemps.
C'est un verre d'oreille.
C'est un verre d'oreille. Et moi, ça m'a instantanément fait penser à l'épisode des Simpsons où Bart, Lisa et je pense que Tante Selma vont à Duff Gardens, qui est un peu leur parodie de... du parc d'attractions Disney. Et là, ils sont dans un manège où il y a plein de petites poupées, justement, qui chantent « One beer for me, one beer for you, I'll have a Duff, you'll have one too ». Un peu sur cette air-là, puis c'est carrément une parodie, là, dans ta face.
Et je pense que c'est dans un épisode de Family Guy aussi qu'il y a, ils font une parodie de ce manège-là, mais c'est des vrais enfants qui sont enchaînés.
C'est vraiment insupportable, cette chanson-là. Je me rappelle quand je suis allée, au mois de mai, avec mon copain à Disney, il voulait pas faire le manège parce qu'il l'avait déjà fait, puis il avait trouvé ça horrible. Puis j'ai entendu des histoires d'horreur où des gens ont resté coincés pendant une heure à entendre cette chanson-là. Parce qu'il y avait un problème technique dans le manège.
C'est ça, on dit que la chanson qu'on écoutait, elle a duré 3 minutes.
Ouais, c'est ça.
Imaginez une heure sans arrêt.
des frissons d'horreur.
C'est des petites poupées, des animatroniques qui dansent et bougent devant nous. Là, ça doit donner un feeling extrêmement étrange.
Et qui représente une espèce de dommage à la multiculturalité.
Oui, à l'humanité, à l'enfance et tout
voilà.
Ça.
Voilà.
Oui. Ah, oh, mon Dieu, des frissons d'horreur. Je ferai un autre manège, moi aussi, je ferai un autre manège à y être. Donc, c'est au tour de Mégane. Oui. Vous parlez notamment de la transmédialité des parcs Disney.
Oui, mon segment est peut-être un petit peu plus théorique, mais j'ai débuté ma réflexion en lisant les textes du cahier du Gers, dans le numéro qui s'intitule Un monde merveilleux, dispositif, hétérotopie et représentation chez Disney. C'est tout disponible en ligne. Allez lire les PDF, c'est vraiment très, très intéressant.
Et c'est sorti, je pense, en 2004, ce cahier-là, oui.
Et donc, c'est aussi à partir de mes recherches personnelles que j'ai débuté ma réflexion. Donc, quand vient le temps d'étudier cet objet immense et monstrueux qui est Disney, il y a un consensus qui se crée chez la plupart des auteurs concernant les parcs et les villes qui ont été construites par Disney. Donc, tous s'entendent pour dire que ce sont des hétérotopies. Donc, selon la définition de Foucault, les hétérotopies sont des lieux qui contredisent les espaces réels de la société tout en étant reliés à ceux-ci. Donc, en d'autres mots, ce sont des lieux mis en parenthèse qui sont accessibles physiquement, mais qui sont coupés du reste du monde.
D'accord.
Dans l'article de Maud Bonenfant, dans Les mêmes cahiers, elle fait un parallèle que je trouve intéressant entre les parcs thématiques et les jeux vidéo. Donc, elle considère que les deux sont des hétérotopies et des hétérochronies. Donc, encore selon les mots de Foucault, une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel. Elle écrit dans l'article ces lieux hétérotopiques nous laissent l'étrange impression que d'un temps en sursis interrompu, d'un non-temps, d'une fausse succession de minutes qui n'ont de toute façon aucune importance, qu'il soit 10 heures du matin ou du soir, le monde merveilleux de Disney existe toujours, que nous croyons avoir joué une heure à un jeu vidéo, en voilà plus de 3 qui ont passé. Le temps n'est plus le même, non pas qu'il passe trop vite, comme les vacances, mais il n'est simplement plus une dimension. Donc, comme j'ai dit, j'ai été à Disney cette année et je pense qu'il faudrait quand même apporter une nuance à cette affirmation-là. Donc, le temps, je pense pas qu'il est sans importance, il se situe en rupture, mais le temps est régi au quart de tour à Disney World.
Okay.
Donc, que ce soit les heures d'ouverture et de fermeture.
Oui, d'ailleurs, c'est quoi les heures d'ouverture et de fermeture?
Je pense que ça ouvre à 8 heures et le parc ferme selon les parcs. Je pense que Magic Kingdom ferme à 21 heures.
OK, donc c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard.
Et tout dépendamment aussi des activités. Je me rappelle, moi, quand je suis allée à Disney World, c'était dans le temps du Nouvel An. J'étais pas au parc à ce moment-là, mais je sais qu'il y avait des parcs qui étaient ouverts jusqu'à minuit pour faire
la célébration du Nouvel An.
Voilà.
Oui, c'est ça. Donc, les heures d'ouverture, c'est quand même important. Les heures de repas sont quand même en accord avec le temps traditionnel. Ça régit aussi le temps des réservations qu'on fait dans les restaurants. Donc, quand on a une réservation, il faut se pointer à l'heure qu'on a réservée. L'horaire des événements ponctuels, donc la parade de 3 heures, faut y aller à 3 heures parce que c'est là que c'est la parade. Donc, les mascottes apparaissent pas à n'importe quelle heure. Donc, c'est écrit dans le dépliant que Gaston, il va être à sa taverne à 5 heures, ben c'est à 5 heures jusqu'à 5h30, puis après, il s'en va.
OK.
Les feux d'artifice aussi. Donc, le temps est quand même très important. Puis c'est important de mentionner tout le phénomène de la fast-pass qui... Donc, quand on achète une fast-pass, pour passer plus rapidement dans les manèges, il faut se présenter au manège dans une période de 1h30. Donc, c'est cette fenêtre-là qui va décider si on passe plus vite. Et donc, c'est ça qui fait qu'on organise un peu notre voyage à la seconde près pour profiter de l'expérience Disney dans son ensemble, parce que ça coûte très cher et on veut faire rentrer le plus d'activités possible en 2 jours.
Et puisque le temps, c'est de l'argent, mais si t'as de l'argent pour passer plus vite dans tes manèges, ben tant mieux pour toi aussi.
Ben oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est quand même un petit peu faux de dire que le temps est sans importance. Mm-hmm. Il est très important, mais il fonctionne différemment. Donc on pourrait imaginer que Disney, c'est justement un univers spatio-temporel qui fonctionne dans notre réalité, mais qui est complètement différent d'une autre. Pour revenir au parallèle que Maud a fait avec les jeux vidéo, j'aimerais partir de cette comparaison pour réfléchir au parc thématique différemment. Et ce, en faisant un détour par la narratologie. Donc, pour faire un rapide résumé, donc on a développé la narratologie à partir des textes, justement des textes littéraires. Mm-hmm. Donc, Jeannette et compagnie, qui ont pensé une dichotomie entre l'histoire et le récit. Donc, oui. Le récit, ce serait l'organisation sur... d'une histoire. Donc, la façon qu'on l'organise, on peut placer des événements avant, après, mais c'est encore très, très linéaire. On a essayé d'élargir cette conception-là au cinéma en répétant la dichotomie. Puis, c'est venu au moment où d'étudier la narration dans les jeux vidéo, donc sans mm-hmm, repasser ouais. tous les détails du débat entre narratologie et ludologie. C'est quand on a voulu appliquer cette dichotomie-là aux jeux vidéo, ça a été un petit peu plus problématique. Il a fallu, justement, réfléchir différemment à la narration.
Mm-hmm.
Et c'est Henry Jenkins, dans son article intitulé « Game Design as Narrative Architecture » qui imagine, comme le titre l'indique, la narration comme une architecture dont le narrateur serait un architecte qui distribue le savoir dans un espace circonscrit. Donc, que ce soit les limites du jeu ou du parc thématique, par exemple.
OK, donc une question de distribution, une question de contrôle de la part... du joueur dans le cas d'un jeu vidéo, mais du visiteur du parc d'attractions.
Ouais, l'information est toujours là, mm-hmm. simultanément. C'est le lecteur, le spectateur ou le joueur ou le visiteur mm-hmm. du parc qui décide comment il construit lui-même sa visite. Donc, c'est ça. Plus qu'une façon d'organiser une chaîne causale d'événements, l'information est disponible en tout temps. C'est les choix du joueur ou du visiteur qui définissent l'expérience qui sera vécue. Et c'est ça, cette définition permet alors de réfléchir aux espaces des parcs thématiques Disney comme étant des espaces narratifs, qui font vivre aux visiteurs une expérience immersive de l'ordre d'un jeu vidéo mm-hmm, en réalité fait, virtuelle.
Ouais. Oui, c'était pas plus immersif que ça.
Ouais, non, c'est ça. Toute la construction des parcs, en fait, est créée dans le but de masquer tous les objets qui pourraient faire référence au monde extérieur. On retrouve ici le concept d'hétérotopie. Donc, le lieu, il est pensé de façon à ne jamais apercevoir un acteur ou une actrice à demi déguisé. Tous les rouages, structures, des manèges et des décors sont soigneusement masqués. Aucun déchet ne doit traîner. L'ordre définit donc le caractère onirique du parc, puisqu'il s'oppose au chaos du monde dans lequel on vit.
Si je peux me permettre, par rapport aux déchets, j'ai lu aussi que dans leur formation à Disney, les cast members mm-hmm. Ne doivent pas simplement se pencher pour ramasser un déchet, mais c'est écrit textuellement qu'ils doivent apprendre à balayer de manière gracieuse.
Ah oui?
Oui, pour continuer l'immersion. Voilà.
Ma foi, ça me fait penser à Cendrillon.
Un peu,
justement.
Hein?
On va commencer à laver l'asphalte du parc avec une brosse à dents. Donc, c'est ça. Disney, c'est un univers artificiel construit afin de faire vivre une expérience totalement immersive, quasi narrative, aux visiteurs. Donc, comme le jeu vidéo un peu plus open world à la Fallout ou Skyrim ou Assassin's Creed, c'est le joueur décide dans quel ordre il va vivre les aventures. Ça ressemble aussi un peu à la pièce de théâtre Tamara, qui est écrite par John Krasinski en 1981, dont la mise en scène prenait place dans un immeuble. Toutes les scènes étaient jouées simultanément. Et c'est le spectateur qui se promenait silencieusement et qui visitait chacune des pièces pour pouvoir avoir accès à l'histoire et la reconstituer de lui-même. Donc, l'architecture des parcs thématiques, c'est aussi pensé de manière à raconter une histoire. Magic Kingdom à Disney World est organisé en sous-parc thématique. C'est une promenade qui est dirigée, ne serait-ce que par les chemins qui ont été mm-hmm, créés pour se promener d'un parc à l'autre. Où on peut être plus précis aussi, l'architecture des parcs thématiques raconte une histoire à nouveau, puisqu'on y reprend des éléments distinctifs des films d'animation, donc le château Cendrillon, la tour de réponse, le manoir de la Belle et la Bête. Donc, c'est aussi...
Oui,
aussi,
ça, je pense que l'expérience est quand même bonifiée quand on connaît déjà un peu, moins un peu, l'univers Disney. Ce qui est un peu difficile quand même de... Il est difficile de contourner. Il est quand même très présent autour de nous depuis très longtemps aussi.
Oui, en effet. pour continuer avec l'exemple de Magic Kingdom, donc, il y a certains éléments du parc qui ont été créés de toutes pièces, donc sans se baser sur une œuvre d'animation précédente. Un exemple, le manège de Pirates des Caraïbes ou la section du parc de Tomorrowland, que les deux, on a fait une adaptation en film.
Oui, effectivement, mais si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme des œuvres qui sont un peu en continuelle construction, parce que, par exemple, moi, j'ai fait Pirates des Caraïbes avant le film, et c'était pas du tout le Pirates des Caraïbes d'aujourd'hui, que Jack Sparrow était pas dans le manège et des choses comme ça. Ils l'ont ajouté à la suite du film en se disant, bon, ben, il y a tellement eu un gros succès qu'on va... Parce que les gens allaient à Pirates des Caraïbes
pour
et ils voyaient...
voir Jack Sparrow.
Exactement. Il y avait la scène des hommes avec le nonos qui essayait de faire attirer le chien avec les clés. Ça, c'était dans le manège original, mais voilà, ça reste une œuvre qui est comme... en continuelle mutation en fonction de...
C'est ça, il y a un peu une rétroaction entre les films qui sortent, le manège initial. Disons que le manège a été inauguré à Disney World en 1973, donc 30 ans avant l'apparition au cinéma du premier film de la franchise.
Je pense que c'est le manège que j'ai fait le plus souvent quand j'y ai allé quand j'étais jeune, parce qu'il y avait presque pas de fil, où la file avançait super facilement. Donc, je suis allée plein de fois, puis je me souviens à quel point, C'est ça, j'étais très jeune, puis mais vraiment, me subjuguait, c'était le réalisme des animatroniques.
Oui. Mais je trouvais ça incroyable quand c'est dans le manège, parce que c'est dans un bateau. Puis il y a un plafond, mais on a vraiment l'impression d'être dehors. Wow. C'est tellement haut, puis c'est tellement bien fait. Moi, j'ai vraiment trouvé impressionnant ce manège-là. Donc, c'est juste depuis 2006 qu'ils ont commencé justement à ajouter des personnages au manège.
OK.
Donc... Oui, c'est ça. Donc, sans être une adaptation au sens un peu plus classique, comme on adapte un livre en film, le passage du manège au film semble un petit peu plus complexe. Donc, ça se rapproche de ce que Henry Jenkins appelle le transmedia storytelling, qu'on traduit par narration transmédiale. C'est un type de narration qui veut que l'univers fictif se prolonge et se complète sur plusieurs plateformes médiatiques.
Oui, on en parle souvent à Pop en Stock de la transmédialité. Mais c'est bien, il faut tout le temps, le redire. C'est quoi?
C'est le keyword de l'année, 2015, l'année transmédiale. donc c'est ça, l'univers fictif se prolonge, se complète sur plusieurs plateformes. Ça permet, selon lui, aux objets et aux personnages d'être plus complets, d'être plus forts. Donc chaque œuvre indépendante, le manège ou le film, peut être apprécié
individuellement.
Oui, c'est ça. Ça peut sonner en elle-même. Mais une visite du manège de Pirates des Caraïbes fait ressortir des souvenirs de notre expérience des visionnements, surtout depuis, par exemple, qu'ils ont ajouté Jack Sparrow. Ils le font de façon... c'est délibéré. Ils savent que ça fonctionne bien. C'est ça, mais notre expérience du manège, c'est un peu... le visionnement du film, mais de façon immersive, parce qu'on est dans un bateau.
Et ça peut... compléter ou ajouter à la compréhension de l'univers narratif des personnages et finalement nos émotions aussi par rapport à ça.
Inversement, réécouter les films, par exemple, après avoir visité le manège, ça peut nous faire ressortir notre expérience du manège, comment qu'on se sentait justement quand on était dans la petite barque.
Ben voilà où je donnais comme exemple aussi le manège de Hogwarts justement, où en plus c'est que tu peux aller vivre, tu l'as lu dans le livre, tu l'as vu dans le film, et là dans le manège, t'as la chance de voir c'est quoi avoir un détraqueur qui te passe à deux pouces de la face, de voir des tableaux qui te parlent, qui te regardent dans les yeux, puis oh good morning lady, blablabla. Donc ça donne aux fans, en plus, quand t'es un fan, c'est presque... À part ça, ça va être carrément d'aller dans une réalité virtuelle, parce qu'il n'y a pas plus immersif pour l'instant que ça.
Foncer dans la colonne là, à Londres, dans la gare de Londres, je ne me rappelle plus c'est laquelle, Pancras? King's Cross, aller foncer dans la colonne, ça va être ça la prochaine étape.
C'est ça, mais on peut aller dans le train aussi maintenant, parce qu'à Universal Studios, il y a deux parcs. Ils ont construit le chemin de traverse.
Oui, qui est malade. Hallucinant.
C'est tellement le fun.
La bière au beurre est vraiment délicieuse aussi.
Oh! J'en prendrais pas deux, par exemple.
Non, ça tombe un peu sur le cœur.
Oui, c'est vraiment... le manège aussi, c'est un petit peu plus intermédiaire parce qu'on a du cinéma. Par exemple, le manège de Harry Potter, on est devant un écran. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est dans la banque de Gringotts.
OK, que je n'ai pas fait.
Non, c'est ça. C'est le nouveau manège. Donc, on est dans un manège, vraiment. On a les pieds dans le vide. Mais tout le manège se passe devant un écran où on change d'écran. Puis, c'est multisensoriel. Quand il y a un dragon qui nous crache du feu, ben on a vraiment une très forte chaleur qui vole dans le visage, ou un peu avec les détraqueurs, qui fait froid. Puis... Donc, c'est ça. Donc, ça se fait rencontrer le cinéma, la musique, la sculpture, la création de décors, ça dépasse complètement notre imaginaire. Donc, c'est une expérience narrative multisensorielle. Parfois même l'odorat rentre en compte. Mm-hmm. Par exemple, on avait fait le manège de Stitch à Tomorrowland.
Oui.
C'est vraiment dégueulasse, l'odeur qu'ils mettent dans ce manège.
Qui, à l'époque, était le manège de Alien. Été transformé en Stitch parce que c'est beaucoup plus familial. Mais à l'époque, c'était Alien et c'était excessivement... c'était très épeurant de voir, justement, de se dire qu'on le sait pas. Parce que là, c'est Stitch qu'on sait pas, il est rendu où dans le manège. Mais Stitch, il est un peu mignon, il est drôle. Mais quand c'est Alien, puis ressens, ils font une espèce de petite vague de souffle dans ton cou. Mais quand c'est le Alien qui est là...
Il y a des petites affaires avec du vent.
Ils n'ont pas été poursuivis pour ça. Moi, je poursuivrais. Alien qui souffle dans mon cou, là. Ma foi du bon Dieu.
J'ai crié à m'époumoner. En tout cas, bref.
Ah ouais, je ne savais pas ça. Donc, c'est ça. Ça m'amène à aborder un autre sujet. Mm-hmm. Ça revient un petit peu avec les objets de consommation dont tu parlais au début de l'émission. Donc, nombreuses analyses qui font le plus souvent un portrait vraiment dystopique des parcs thématiques de Disney. Donc, c'est un univers faux, pardon, qui n'a d'autre objectif que celui de nous forcer à acheter des produits dérivés, de nous forcer dans la gorge un bonheur qui s'oppose à les réalités quotidiennes. Le consommateur de produits dérivés dans les textes universitaires, le plus souvent, c'est souvent un élément aliéné qui n'a pas vraiment conscience de son statut. Il consomme sans réfléchir. Sans nécessairement être totalement en désaccord avec ces affirmations, j'aimerais réfléchir différemment à cette question. Parce qu'en tant qu'universitaire, on a souvent une confiance inébranlable en nos capacités et on passe souvent des jugements rapides sans vraiment vivre l'expérience subjective de l'objet dont on parle au nom d'une objectivité ou d'une distance critique. Donc, pour avoir vécu l'expérience Disney quand même assez récemment, je pense qu'un point de vue subjectif de l'expérience des parcs, ça peut nous permettre de réfléchir à la question du consommateur autrement. Mm-hmm. Donc, dans les cahiers que je nommais au début de ma présentation, il y a Charles Perraton. Perraton, oui, merci. Dans son texte qui s'intitule « Cinéma à la ville, Disney, maître des lieux », donc il écrit que le public s'entoure de souvenirs des personnages qu'il a aimés dans l'espoir ou l'illusion de retrouver une part de leurs attributs. Dans la mesure où ces objets collent ou ont collé aux héros, ils croient pouvoir en tirer la part d'énergie, de vertu et de bonheur que ces derniers incarnent. Personnellement, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense plutôt que les produits dérivés qu'on achète lors de nos visites au parc thématique sont plus des traces de l'expérience qu'on a vécue, donc de l'expérience narrative, on pourrait dire. Donc, le nom qu'on leur donne, des souvenirs, est quand même révélateur. Donc, c'est pas l'objet en tant que tel qu'on veut acheter, mais l'achat est une trace, une preuve qui nous permet de nous remémorer notre expérience dans le parc. Donc, c'est la trace de notre présence en ce lieu. Donc, l'objet devient le lien entre le lieu hétérotopique de rêve, de bonheur, et notre réalité quotidienne un peu plus chaotique. Mm-hmm. Donc, dans Le bonheur paradoxal, Gilles Lipovetsky réfléchit aux endroits mercantiles et à la valeur sociale de l'achat qui change depuis les années 90. Et il avance qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt à la théâtralisation des points de vente, aux animations diverses et au marketing expérientiel, ayant pour but de créer une ambiance de convivialité et de désir, d'introduire du plaisir dans la fréquentation des lieux de vente. Tandis que, les experts anglo-saxons parlent d'un fun shopping, les centres commerciaux et les magasins, nouvelle tendance, on propose de réenchanter les gestes et les lieux d'achat, de transformer les zones de temps contraints en zones de plaisir. Donc, le produit, c'est plus nécessairement une distinction sociale ou un besoin. Il doit être présenté dans un endroit propice à créer l'envie chez le consommateur, à le mettre dans de bonnes dispositions de réception. Le parc thématique de Disney s'inscrit directement dans cette conception des nouveaux lieux d'achat. Il est vrai qu'il faut faire attention et regarder parfois avec un œil critique les stratégies de commercialisation, mais j'ai décidé de pas en parler, justement parce que les textes abordent très bien cette question-là, vous pouvez aller les lire. Donc, c'est plus nécessairement de créer des faux besoins ou d'avoir une distinction sociale. On consomme du Disney parce que Disney nous vend du bonheur, mm-hmm. du bien-être et une expérience immersive dans laquelle nous, en tant qu'individu banal, nous avons mis littéralement les pieds dans un lieu magique, loin de mm-hmm. notre quotidien.
Oui, et t'as choisi une chanson du film Hercule, Zero to Hero, je crois, en fait, que dans le film même, il y a des produits dérivés.
Ben oui, c'est ça.
On va l'écouter.
Hey,
c'est le fun!
C'est super!
Moi, je vais parler de la Disneyfication des villes. Je vais éventuellement parler des produits dérivés là à la fin parce que ça fait partie un peu de tout ça, donc il va y avoir un lien. Quand on parle de Disneyfication des villes, souvent, en fait, c'est péjoratif. C'est comme si une ville, une grande ville comme New York ou Paris, perdait son âme. Un bon exemple de ça, j'ai lu un article pour préparer ma chronique sur Venise. Venise reçoit à chaque année 20 millions de touristes. C'est énorme. Pour une ville qui est comme un labyrinthe d'eau et de canaux et de ponts et de ruelles là, qui mènent un peu nulle part. Pour une ville de 58 000 habitants, c'est comme à peu près Boucherville, à peu près, là, comme s'il y avait 20 millions de personnes qui passaient à travers ça à chaque année. Ce qui fait en sorte, finalement, qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de Vénitiens qui partent à chaque année, que ça devient de plus en plus une ville dépeuplée, qui n'est consacrée qu'au tourisme, finalement. Et là, il y a vraiment une crainte de la Disneyfication de Venise. Donc, que Venise devienne une espèce de stéréotype cheap, là, qui combine des éléments disparates qui sont loin de la culture locale, mais qui apparaissent comme étant authentiques, véritables et finalement importants à des yeux étrangers. C'est comme aussi si on réifiait l'histoire en ne gardant que des façades là, d'édifices qui sont finalement vidées de leur sens. Là. Et ça, c'est vraiment une crainte pour plusieurs personnes. Cela mentionné, pour d'autres personnes, en fait, c'est quelque chose de... Comment dire, c'est... Ils appellent pas ça « Disneyfication », ils appellent ça plutôt une expérience tourisme. Où qu'est-ce qui est important, c'est de « streamliner » l'expérience touristique pour en faire une expérience, pour faire finalement une expérience rendue facile, lisse, propre, cohérente, où on a vraiment du plaisir à aller dans une grande ville qui peut être à d'autres égards particulièrement déroutante.
Mais qui est quand même pas en recherchant de, justement de vivre l'expérience, tu sais, comme les gens qui vont aller faire des Airbnb puis qui veulent, ils veulent vivre pendant deux semaines, OK, c'est quoi vivre local et tout ça, c'est vraiment pas ça qu'on cherche dans la dignification d'une ville. Là.
Non, mais des fois, on peut être un touriste qui veut éviter ça, mais étant donné que la ville a été conçue pour ce type d'expérience touristique-là, on n'y échappe pas vraiment.
D'accord.
C'est comme un peu ça le danger. Qu'est-ce qui caractérise la dignification des villes? Souvent, c'est notamment des endroits à thème. Las Vegas est un très bon exemple pour ça. Il y a plusieurs hôtels sur la Strip, off-strip aussi, et tous ces hôtels-là ont des thèmes. Le MGM, qui a un thème Lyon, l'hôtel New York, New York, qui a un thème New York, l'hôtel Paris, qui a un thème Paris. Aussi, il y avait, durant les années 90, là, plein de chaînes mondiales avec des thèmes de divertissement. Le Hard Rock Café, qui existe toujours, c'est vraiment pas bon, la bouffe. Hard Rock Café, c'est dégueulasse.
Et ça coûte tellement cher.
C'est très, très cher, là. Ça vaut vraiment pas la peine. N'y allez pas. Sauf si vous êtes un touriste qui cherche...
Ou que vous collectionnez des t-shirts de Hard Rock Café,
oui, oui,
comme fait beaucoup de gens.
J'ai eu ma passe de t-shirts de Hard Rock Café, je l'avoue. Moi, je me rappelle quand la première fois que j'allais à New York, il y avait le All Sports Café. Donc, c'était un endroit où il y avait plein d'objets de sportifs, d'athlètes connus, dont les souliers de Shaquille O'Neal. Et je suis encore traumatisée de la taille de ces souliers-là. Planète Hollywood.
Oui, c'est ça exactement ce que j'allais nommer.
Planète Hollywood, qui était à Montréal même pendant un moment, qui aujourd'hui, on ne le retrouve plus, mais durant les années 90, c'est très fort. Donc, ça, c'est un endroit à thème. Ça fait partie de ce qu'on considère la dignification de l'endroit public des villes. La consommation hybride aussi fait partie de ces caractéristiques-là. Donc, ça, c'est... En fait, tu vas dans un endroit et il y a plusieurs services. Tu peux vraiment passer beaucoup de temps, là. Magic Kingdom et autres, j'imagine qu'on peut vraiment tout faire à cet endroit-là. On peut même dormir. Les hôtels à Las Vegas, j'y reviens, on peut, bien entendu, dormir. On peut visiter... Il y a des fois des galeries. On peut manger. On peut se divertir, aller voir des spectacles. On peut magasiner. On peut, bien entendu, gambler. Mais ça devient juste une expérience parmi tant d'autres qui sont offertes dans ce genre d'endroit-là. La présence, bien entendu, de marchandises et de produits dérivés, c'est très important. Je dois avouer que j'ai une énorme attraction, répulsion envers les produits dérivés. Je recherche toujours le meilleur gift shop là, de la ville. Je suis, dès qu'il y a un musée ou quoi que ce soit, là, je recherche toujours le gift shop pour aller voir toute la panoplie de souvenirs qui sont
disponibles. J'achète rarement, mais j'adore déambuler dans ces magasins.
Oui, on en apprend beaucoup, je trouve, sur comment la ville veut être perçue en question. J'ai mon sac à main, c'est une Gugus touristique que j'ai acheté à Londres. Donc, mais c'est vrai, j'en achète pas tant que ça non plus. Mais c'est important pour moi, c'est important aussi que ça soit écrit dessus, d'où c'est que ça vient. Sinon, comment on s'en rappelle? comment on s'en souvient que c'était... Si on n'a pas comme... Tu sais, le petit crocodile qui fait squick-squick, qui n'a pas écrit Las Vegas dessus, comment on peut s'en souvenir?
Vu de même, moi, j'aime moins que ce soit écrit en gros. Tu sais, comme je suis allée à Londres aussi, j'ai des choses de Londres, mais j'aime pas que ça soit écrit London dessus. Mais j'apprécie beaucoup qu'il y ait le Union Jack ou le Underground ou je sais pas trop quoi.
Oui,
le plus c'est ça, les symboles. Mais bon, c'est une question de goût.
Oui, ça provient de ma grand-mère là, qui m'avait déjà dit que une de ses amies achetait toujours des souvenirs avec écrit Florida dessus. Comment savoir autrement? Puis ça m'a vraiment marqué. Et aussi, le dernier, puis Megan t'en parlait, l'importance du travail émotif. Donc, les personnes qu'on rencontre, en fait, les travailleurs des endroits, ne sont pas seulement des personnes qui donnent des services, mais aussi qui offrent un divertissement. Donc, les personnes qui sont employées par Disney, tu l'as clairement dit, Elisabeth, doivent être des cast members, donc doivent nous entertainer. Mais quand on va au Starbucks maintenant, il faut aussi qu'on ait une belle expérience, agréable, qu'on sente la passion là, chez l'employé de Starbucks. Et ça, je répète, c'est vraiment dans un but de faire une expérience touristique streamlinée, qui est propre, qui est lisse, qui est sécuritaire, très important que ce soit sécuritaire, et qui soit très agréable, dans le but, finalement, de persuader les touristes de venir, de rester, de revenir, de dépenser, et que ces touristes-là reviennent chez eux et disent à quel point New York, Paris, Montréal, Mumbai, c'était extraordinaire, donc retournez-y. Et aussi, toute une question de privatisation d'espace public. Et là, je vais parler de l'exemple de Times Square, De période de la dépression à jusqu'à la fin des années 80, Times Square à New York, c'est un endroit qui était, avouons-le, là, passablement moche. Là. Il y avait beaucoup de criminalité qui se passait là. Les théâtres qui avaient connu vraiment un âge d'or extraordinaire durant les années, durant la première partie finalement du 20e siècle, étaient en train de devenir soit des théâtres, des cinémas porno, ou en train de se délabrer devant nos yeux. Il y avait beaucoup de prostitution, de commerce de drogue. C'était vraiment un coin problématique et les autorités gouvernementale avait beaucoup de misère à régler ça, avait même un peu pas vraiment le goût de s'attaquer à ça parce que c'était vraiment très problématique. Et au courant des années 80, il y a une première volonté, un premier projet de transformer Times Square en un centre financier. New York était en train de avec Wall Street, tout ça, était en train, toutes les années 80, tout ça, toute la cocaïne là, qui se était, donc il y avait vraiment une volonté de rendre ça comme un gros centre financier, un peu à la manière justement comme dans le sud de Manhattan. Ça a été le gouvernement s'est associé à certains intérêts privés afin de créer un nouveau Times Square et mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu une autre crise financière en 1987. Et là, Disney justement est arrivé à la rescousse. Ils ont reconstruit Times Square avec un thème 42e rue, donc le thème des théâtres, des premiers théâtres justement autour de Times Square. Donc tout remodeler Times Square autour de l'esthétique historique de la 42e rue, mais de manière, encore une fois, propre, sécuritaire et familiale. Et ça a été la première intervention urbaine de Disney, vraiment, pour reconstruire une place et la rendre attrayante de nouveau. Ils se sont pris de trois manières en particulier. Ils ont construit un Disney Store.
Mm-hmm.
Qui est très connu.
Qui est magnifique.
Qui est magnifique. Et que dès qu'il y a un Disney Store, moi, je vais rentrer. Même si je ne suis pas une grande fan de Disney, je suis comme, on y va, c'est sûr qu'on y va. Ils ont aussi rénové un théâtre du début du 20e siècle dans le but de montrer des comédies musicales tirées des films de Disney. Et là, on en a vu vraiment plein au courant des années 90 et 2000. Lion King, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Ah, il y en a d'autres. Je crois qu'ils sont en train de faire Frozen. Ils peuvent pas faire Frozen, ma foi du bon Dieu.
Mais moi, j'ai vu La Belle et la Bête, pas à New York, je l'ai vu à Montréal.
D'accord.
C'est magnifique. C'est tellement beau. Puis c'est plus long que le film aussi. C'est au moins 45 minutes de plus. Là. Ils ont rajouté beaucoup de choses. C'est plus adulte aussi. Là. Ils ont mis des sous-entendus.
Érotique
un peu, voilà, de plusieurs sortes et de plusieurs types, mais voilà, c'est vraiment de la grande qualité de théâtre qu'ils font.
Ils ont les moyens.
Voilà, j'ai pas vu de Lion King malheureusement, mais tout le monde me dit que c'est merveilleux.
Ça, Lion King, l'esthétique africaine qu'ils ont pris, ont l'air vraiment moins bébé que dans le film là. Ça a l'air d'être très très beau vraiment. Et aussi ils ont retapé un hôtel au complet. Donc avec les moyens de Disney qu'on connaît, un hôtel pour rendre ça familial, comme venez habiter sur Times Square, chose qui était vraiment impensable durant les années 70-80. Donc là, mais avec cette intervention-là, Times Square est devenu une place pour touristes, pour banlieusards aussi, pour familles à la recherche de l'expérience New York. Et je finirai avec finalement l'article de Charles Perraton dont tu as parlé, qui, dans cet article-là, il parle de trois hypothèses, notamment que le parc d'attractions est un... C'est une extension des films, mais j'aimerais ça dire aussi que la ville, en fait, certaines villes, comme New York, sont devenues des extensions des parcs Disney. C'est comme si on vivait dans un monde Disney un peu en tout temps, où on doit être un héros spécial, on doit être un être humain unique là, qui vit quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et Charles Perraton finit son article en parlant de trois manières dont les parcs Disney, et en fait l'univers Disney, peut changer les individus. Il dit tout d'abord que on devient des consommateurs non avertis, donc qu'on est incapable de distancier nos besoins, en fait plus d'achats impulsifs.
Oh oui.
Et dans une ville Disney, c'est vraiment le cas justement avec les produits dérivés là qu'on on achète n'importe quoi des fois, disons-le.
Ça devient problématique quand justement le parc plein de magie, mais là on habite dedans, il y a des gens qui vivent leur vie là-bas là, on fait plus la différence, il y a plus de frontières entre la fiction et la réalité.
Mm.
Deuxième point, qu'on devient aussi des citoyens qui sont intolérants. Donc, dans le monde Disney, c'est un monde très homogène. Les films Disney aussi sont quand même assez homogènes. Et dans les villes Disney, il y a pas un poil qui dépasse là, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Aujourd'hui, il y avait une manifestation, notamment à Montréal, mais faut que ce soit réprimé, là, faut que ce soit caché à quelque part.
Si les mascottes se battent, il faut les poursuivre.
C'est tellement drôle, en plus, je trouve comme image des mascottes qui se battent. Et... enfin, le dernier point de Charles Perraton, c'est que ça forme, les parcs Disney forment des citoyens qui sont irresponsables. Et on pourrait dire aussi que les villes Disney forment des citoyens qui sont irresponsables parce qu'il y a tellement de contrôle autour de nous qu'on n'a plus besoin de se responsabiliser de nous-mêmes. C'est quelque chose que d'autres instances font, d'autres instances qu'on peut penser privées et donc evil. Mais là, non, je vais pas dans ce, je vais pas aller dans ce débat-là. Mais des corporations dont le but est de faire de l'argent. Donc, on va, pour faire de l'argent, faut avoir des barrières de contrôle un peu, des fois, sordides et étranges. Donc, voilà, ça conclut notre émission sur les parcs Disney. Je trouve qu'on a fait vraiment un beau tour, comme...
Un beau tour de piste,
oui. Oui, un beau tour de manège, en fait. Oh. Et, et on va terminer avec la chanson Disney des dernières années, qui, moi, est un coup de cœur. Je n'ai pas d'enfant autour de moi, mais j'aime vraiment beaucoup cette chanson-là, par son interprétation, par sa composition qui est impeccable. Let It Go, de Frozen, interprétée par Idina Menzel.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me.